Vous êtes sur RTL. Avec Pascal Pro.
Et nous allons être avec Jackie pour parler football. Bonjour Jackie, bonne réaction des joueurs de foot hier soir ?
Oui, très bonne réaction, c'était ce qu'il fallait faire.
Eh bien, vous allez nous expliquer tout ça dans une seconde. Le rappel des titres avec Christelle.
Seul le pilote instructeur a survécu au terrible accident d'un hélicoptère de secours en montagne hier près d'Albertville. Le brouillard était intense, mais on ne connaît pas encore les raisons de la catastrophe qui a fait 5 morts. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rendra sur place demain. Le financement des cultes, la haine en ligne, l'éducation à la maison, toutes ces questions sont balayées dans le projet de loi contre le séparatisme qui a été présenté ce matin au Conseil des ministres. Un texte baptisé « Projet de loi confortant le respect des principes de la République ». La parole à la défense aujourd'hui au procès de l'affaire des écoutes. Le parquet national financier a requis hier 4 ans de prison dont 2 fermes contre Nicolas Sarkozy, jugé pour corruption et trafic d'influence. La France va-t-elle faire comme l'Allemagne ? Angela Merkel prône de nouvelles restrictions face à l'épidémie et demande aux Allemands de réduire leur nombre de contacts d'ici les fêtes. Elle redoute une augmentation exponentielle du nombre de cas.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et nous sommes donc avec Jackie, que je salue de nouveau, qui est éducateur de foot. C'est pour ça que c'est intéressant de vous écouter, parce que vous êtes sur le terrain et vous allez pouvoir nous donner votre sentiment sur ce qui s'est passé hier. Je vais quand même rappeler, hein, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant, précisément le 4e arbitre de la rencontre hier soir a donc utilisé le mot « noir » pour désigner l'entraîneur adjoint de l'équipe turque, qui s'appelle Pierre-Achille Ouébo. Ce 4e arbitre, il est roumain et il a dit le mot « négrou » qui signifie « noir » dans sa langue d'origine. L'entraîneur adjoint de Başakşehir n'a pas accepté d'être nommé ainsi. Il a dit en anglais « Why do you say négro ?»« Pourquoi vous dites noir ?» Et les joueurs des deux équipes ont affiché leur solidarité avec Pierre-Achille Ouébo. Ils ont refusé de reprendre la partie et après de nombreuses discussions, l'UEFA est convenu de reporter le match ce soir à 18h55. Jackie.
Oui, alors je disais qu'effectivement ils avaient eu la bonne attitude et eu raison de quitter le terrain. Pour moi, effectivement, les propos sont complètement inacceptables. Alors il y a plusieurs choses, hein. Donc les arbitres, effectivement, au sens large, ils sont plutôt effectivement hautains, hein, généralement dans leurs propos et dans leur attitude au niveau national et international, en France et ailleurs. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on est au niveau international, ils doivent parler en anglais entre eux. C'est de façon à être compréhensible de toutes les personnes qu'il y a autour. C'est le langage international. Qu'ils soient roumains entre eux, parce que effectivement, il vaut mieux qu'ils se connaissent, les quatre arbitres, c'est avéré, c'est toujours comme ça que ça se passe. Sauf que dans ce cas-là, effectivement, à partir du moment où ils désignent quelqu'un en vue de lui donner une sanction, il faut que tout le monde comprenne ce qu'il est en train de dire. Et quand ils désignent effectivement la personne comme étant le noir, je suis désolé, il n'y a aucune excuse à avoir et c'est un comportement inacceptable, quoi. Donc c'est du racisme. C'est une réalité que je découvre, on va dire, au niveau de l'arbitrage, parce que moi, en tant qu'éducateur, j'ai jamais eu d'incident de cet ordre avec les arbitres. Ils sont plutôt bien éduqués, ceux qu'on a, ce sont des jeunes arbitres.
Oui, non, mais parce que vous mettez le point, est-ce que l'arbitre a eu le sentiment de proférer une insulte raciste hier? Ça, je ne peux pas répondre à cette question. La seule chose que je peux...
Peut-être pas dans son esprit, en attendant, c'est très maladroit.
Oui, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, les joueurs l'ont vécu comme ça.
Ouais. Ah ben c'est normal, c'est normal. Et puis bon, c'est pas, je veux dire, la réalité aujourd'hui des terrains de foot, c'est quoi? Aujourd'hui, dans les centres de formation, sur les terrains de foot, vous avez entre 50 et 60% de joueurs de couleur aujourd'hui. C'est une réalité.
Vous voyez donc, ce que vous venez de dire là, joueurs de couleur. Oui. Certains considèrent que c'est une expression raciste.
Ben c'est factuel.
Non,
c'est factuel.
Non. Moi, je vous dis aujourd'hui, je connais des gens qui sont noirs, qui me disent cette expression, c'est une expression raciste. Et je ne veux plus entendre ça. C'est pour ça qu'aussi c'est, notre société est compliquée. Vous-même, vous dites c'est factuel. Non, ils ne sont pas de couleur. Excusez-moi, ils sont noirs.
Oui,
donc
alors,
vous voyez, moi j'avais ce débat ce matin. Non, mais c'est intéressant. Je vous assure, notre société est intéressante pour ça. Parce qu'évidemment, Jackie, quand vous dites joueur de couleur, il y avait même dans cette expression jadis une forme de pudeur qui était utilisée avec cette expression, une forme de délicatesse en tout cas. On voulait dire joueur de couleur. Et moi, j'ai des amis qui détestent cette expression, qui la détestent et qui la récusent et qui trouvent précisément qu'elle est significative d'un temps ancien. Donc je fais juste cette parenthèse, Jackie, puisque évidemment je ne vous fais pas le procès.
Ouais, enfin moi j'ai effectivement 54 ans. C'est vrai qu'on a un certain recul par rapport à cette évolution et dans le langage, dans la gestuelle, etc. de tous ces acteurs du foot. Avec les jeunes qu'on a, nous, effectivement, qui ont entre 10 et 19 ans et qu'on côtoie au quotidien, tout le monde se chambre, effectivement, le discours, le black, c'est le petit black là qui, etc. C'est des choses, effectivement, qui sont courantes entre nous. Et ces joueurs-là, c'est en formation, le vivent, ça, l'aspect, effectivement, qu'on les désigne comme des blacks. C'est quelque chose qui est courant chez eux, sauf que, au niveau international, au niveau national, sur les terrains de foot, aujourd'hui, ça ne doit pas avoir, ça n'a pas lieu d'être. Et puis tous ces abrutis qui sont dans les tribunes, qui viennent se défouler le dimanche en voyant des matchs, où ils vont voir de plus en plus d'acteurs, pour se défouler, ben ces gens-là n'ont rien à faire là. Il faut tout faire et faire en sorte que ces gens-là, effectivement, soient exclus définitivement des stades. C'est pas un défouloir, un terrain de foot. Et il faut pas que ça le devienne. Donc, on doit pas accepter ça, simplement. Voilà.
Bah merci, Jackie. Merci. On va marquer une première pause, peut-être, et on sera avec, figurez-vous, un autre Jackie. Mais restez peut-être, parce que on a un Jackie qui est pas du tout d'accord avec ça et qui pense que la réaction des joueurs est disproportionnée. Donc, ça va être intéressant de l'écouter. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il est 13h09 et nous sommes avec Laurent Tessier. Laurent, ça fait parler tous les appels, évidemment, sur le football.
C'est le sujet numéro 1 au 32-10. C'est le sujet numéro 1 sur la page Facebook RTL. Mmh. Les auditeurs ont la parole. Bravo aux joueurs des deux équipes d'avoir quitté le terrain, écrit Elisabeth. Belle solidarité des deux équipes pour Ouria. J'attendais ces images, nous dit Patrick. Le racisme n'a pas sa place, hein, ni sur un terrain de foot, ni dans la rue. Lance Ulia, on ne doit plus désigner des êtres humains par leur couleur de peau. Et cet arbitre a dit noir. Où est le racisme, répond à l'instant Carf. On marche sur la tête, lance Marie. Je trouve, nous dit Cédric, l'on va un peu vite dans cette affaire. Chacun, il va de son petit commentaire pour dénoncer le racisme. Attention, attendons l'enquête de l'UEFA.
Alors, nous avions Jackie, éducateur de foot à Lille, qui trouvait formidable la réaction des joueurs hier. Et on a un Jackie qui habite dans les Hauts-de-Seine, qui a le même âge d'ailleurs. Vous avez le même âge tous les deux et vous ne pensez pas la même chose. Bonjour, Jackie des Hauts-de-Seine.
Bonjour. Alors, effectivement, je pense exactement l'inverse. Enfin, en tout cas, je trouve la réaction des joueurs à côté et disproportionnée. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'ont pas compris. L'entraîneur adjoint, il a entendu négro. Il a cru qu'on... Il a pris ça au sens littéral. Il a entendu négro. Il a pensé qu'on le traitait de négro alors que ça voulait juste dire noir. Le roumain, l'arbitre roumain. Il a peut-être été maladroit, mais en aucun cas, il a été raciste. Il a juste dit l'homme noir.
Alors, si vous me permettez, d'abord, oui. Lorsqu'on est un arbitre roumain, la langue de l'UEFA, ça peut être l'anglais. Et le mot, il doit le savoir, cet arbitre, que ce mot-là, même négro, même en roumain, comme vous dites, il est très connoté. Convenons-en. Il est très connoté.
Noir en français, c'est une insulte. Si je vous suis.
Je ne dis pas ça. D'abord, après, c'est discriminatoire de désigner quelqu'un par sa couleur de peau. C'est-à-dire de dire ce qu'a très bien dit Dembélé, je crois, qui lui dit si c'était un blanc, vous ne diriez pas faut virer l'homme blanc.
Là, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Par exemple, on va émettre une hypothèse. On est dans le championnat du Sénégal de D1. Il y a un entraîneur assistant qui est blanc, un arbitre noir. Est-ce qu'il ne dirait pas en le désignant l'entraîneur blanc ou le blanc qui est là?
Jackie, j'entends ce que vous dites, mais il faut un peu de subtilité quand même. C'est-à-dire quand vous êtes sur un terrain de football, dans le climat d'aujourd'hui, vous devez savoir que vous ne pouvez pas désigner dans ce moment-là cet homme-là de cette façon-là. Me semble-t-il. Mais je ne lui fais pas un procès en racisme. Hein. Attention, moi j'essaye vraiment d'être nuancé. Je trouve que c'est un sujet formidable pour tout vous dire. Mais j'essaye d'apporter de la nuance.
Vous savez, quand j'entends l'autre Jackie, là, que vous avez...
Il va vous répondre d'ailleurs, tiens.
Alors lui-même, vous avez bien relevé d'ailleurs, il a dit gens de couleur.
Oui.
Personnes de couleur. Alors effectivement, pour certains, personnes de couleur, c'est une insulte. Pour certains, noir est une insulte. Pour certains,
non, pour aucun noir n'est une insulte.
On est bien d'accord.
Non, mais là, vous dites pour certains, noir est une insulte. Non. pour un noir, noir n'est pas une insulte.
Bah, je suis absolument d'accord avec vous, c'est exactement ce que je dis. Et par ailleurs,
bah,
moi,
pas exactement,
je joue au foot depuis de nombreuses années. Mmh. Effectivement, dans le milieu du foot, notamment amateur, le racisme, ça n'existe pas.
Oui, mais alors, Jackie, pourquoi les joueurs ont réagi tous comme ça, unanimement ?
Bah, je vais vous dire. Ils ont réagi comme ça parce qu'ils ont fait un amalgame. Et puis, surtout, ils n'ont pas compris. Ils ont vraiment cru.
Bah, ils ont très bien compris. Ils ont très bien arrêté. Ne leur faites pas ce procès-là. Ils ont très bien compris, les joueurs.
Ils ont compris négro, d'accord ? Ou noir, enfin. Et si vous voulez, ils sont tombés à côté. C'est-à-dire que...
Bon, Jackie vous répond. Jackie qui est éducateur de Jackie, j'allais dire pour le prix d'un. Jackie alors, répondait.
Alors, je répète qu'au niveau international, effectivement, il y a différentes façons de s'exprimer. C'est l'anglais qui prédomine. Première chose, on est en période de Covid. Ils sont espacés les uns des autres. C'est pas compliqué de désigner le premier, le deuxième, le troisième sur le banc. Et pas dire noir. Je suis désolé, c'est maladroit. C'est si vous l'interprétez comme vous voulez, mais il a pas bien agi ainsi. Et dire qu'il n'y a pas de racisme dans le football amateur, ça, il y a longtemps que vous n'avez pas été autour des terrains. Donc c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y en a du racisme. La société, les terrains de foot, c'est le reflet de la société.
Non, je suis pas d'accord avec vous, Jackie. Si vous me permettez, je trouve que, et c'est ça le grand paradoxe de notre conversation, c'est que s'il y a un domaine où il y a moins de racisme que dans d'autres domaines, c'est bien le sport. C'est-à-dire que c'est sans doute le sport qui intègre le mieux. C'est sans doute le sport où la diversité est la plus grande. C'est sans doute le sport qui permet que dans un vestiaire, des noirs, des blancs, des gens de toute confession s'entendent, etc. Je vous assure, si le reste de la société était à l'image du sport, parce que combien de noirs dans la magistrature française ? Combien de noirs dans nos métiers d'animation ou de journaliste ? Combien de noirs dans la politique française ? Je vous assure, alors que dans le sport, vraiment c'est un domaine qui intègre. Pourquoi d'ailleurs ? Parce que il y a que le talent qui prime. Là, il n'y a pas d'autres paramètres. Il n'y a que le talent et l'efficacité. Donc si vous êtes noir et si vous êtes bon, ben vous êtes au top. Ouais. Là, il n'y a pas de sujet. Alors que dans d'autres domaines, parfois, c'est un peu plus compliqué. Stéphane est là aussi. Stéphane, bonjour. Qui est
oui,
arbitre.
Bonjour,
bonjour Stéphane, qui habite dans le Nord aussi.
Oui, tout à fait. Donc, moi, je voulais intervenir parce que, laissons faire les instances de l'UEFA pour éventuellement...
Ah, on va laisser faire d'abord le téléphone. Jérémy, bonjour Jérémy. Puis on reprendra Stéphane après.
Bonjour Pascal.
Bonjour, vous habitez Cholet. Il n'y a que des hommes qui appellent d'ailleurs, c'est assez intéressant. J'aimerais bien aussi avoir...
Éducateur sportif.
Éducateur sportif.
Bon, moi je suis dans un domaine où il n'y a pas de compétition, c'est le domaine du sport santé, de la remise en forme. Mais voilà, je voulais intervenir aussi parce que tout ce qui a été dit pour l'instant est intéressant et porte à matière à réflexion sur les mots employés. Moi maintenant je pense que tout ce qui a été dit là... Et plein de bon sens. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est la suite qu'on va voir par rapport à l'UEFA. Ce que l'UEFA, comment on va traiter le dossier, comment on va traiter le sujet. Et ça va être intéressant de voir la suite. En tout cas, ce qui est à mon sens intéressant, c'est ce que j'ai dit à Olivier tout à l'heure, votre interlocuteur, c'est la réaction collective des joueurs, des deux équipes. Il y a une rivalité, c'est une compétition internationale, c'est la plus prestigieuse, c'est la Champions League. Et malgré ça, on a vu les joueurs... Alors c'était dans les 13 premières minutes, ça a peut-être une importance. On a vu les joueurs en tout cas se solidariser. On a vu Neymar, Mbappé tout de suite aller au-devant des joueurs turcs pour déjà pour prendre l'information de ce qui venait de se passer, parce que je pense que pour beaucoup de joueurs c'était un peu flou. Et alors ensuite on a vu cette cohésion, cette solidarité entre les deux équipes. Et pour moi ça c'est l'événement marquant de la soirée de cet épisode-là.
Bah effectivement, ça l'est d'ailleurs. Je partage votre avis. C'est ce qui est très positif, parce qu'il y a des choses qu'on peut prendre avec un peu plus de distance et de nuance, disons-le. Mais le fait que les joueurs soient unis dans cette cause-là, c'est quelque chose de très positif. 13h16, une pub. Je salue Damien Béchiot, qui est avec nous aujourd'hui.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour Damien. Et Stéphane, nous l'avons retrouvé après la pub. Donc le téléphone, de nouveau, fonctionnait. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Pascal Praud,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous avons retrouvé Stéphane qui était choqué en tant qu'arbitre de ce qu'il a vu hier soir. Rebonjour Stéphane.
Oui, rebonjour, excusez-moi, j'ai eu un problème de téléphone.
Ça arrive.
Donc je disais, laissons faire les instances pour sanctionner l'arbitre. Ne parlons que de ce qui s'est passé hier soir. Alors effectivement, en tant que professionnel, il est arbitre UEFA, il n'y avait pas lieu de dire ça. Ça, c'est inacceptable. Même nous, au niveau amateur, on vous voit les joueurs, on vous voit les entraîneurs. On essaye de respecter, quand on désigne quelqu'un, on dit monsieur l'entraîneur, monsieur, même aux joueurs, on dit monsieur. Et je pense que j'ai peur que, effectivement, par rapport à cette situation-là, il ne faut pas faire l'amalgame entre tous les joueurs et là, entre tous les arbitres. J'ai peur que, de ce fait-là, ça puisse se répercuter sur le championnat amateur. Et pourquoi pas avoir des histoires comme ça au niveau amateur. Voilà. Mais il ne faut pas faire l'amalgame, je tiens à le préciser, entre tous les arbitres. Voilà. Comme on ne fait pas l'amalgame entre tous les joueurs. Voilà.
Non, mais je partage votre avis.
Et franchement, ces mots n'ont pas lieu d'être sur un terrain de football prononcés par qui que ce soit.
Vous avez parfaitement raison. Stéphane, Jamel est là également et vous allez pouvoir rester, Stéphane, bien sûr, et écouter Jamel qui habite Valenciennes. Peut-être des anecdotes, parce que la question qu'on pose Jamel, c'est est-ce que il y a du racisme dans le football ? Alors la réponse est oui, bien sûr, mais comme il y a du racisme à l'école, comme il y a du racisme à la télévision, comme il y a du racisme sans doute dans tous les domaines de la société. Simplement, est-ce que le sport permet de mieux vivre ensemble que d'autres domaines de la société. Moi, j'ai le sentiment, en tout cas, que réussir l'intégration se fait plus facilement dans le domaine du sport que dans bien d'autres domaines, Jamel.
Oui, alors bien sûr, bonjour Pascal.
Bonjour.
Bien sûr que l'intégration se fait plus facilement par le biais du sport. Donc, c'est un domaine dans lequel l'intégration, pour moi, est assez simple, je dirais. Même très simple, je dirais. Mais pour en revenir au propos de ce qu'a dit l'auditeur précédent, l'arbitre, je pense qu'il a très très bien expliqué ce qui se passe actuellement dans le monde amateur. C'est une situation assez délicate parce que moi, j'en suis victime. Je rencontre souvent ce cas de racisme dans le monde amateur.
C'est-à-dire, alors vous êtes de quelle origine, Jamel ? Et pardonnez-moi alors, peut-être de poser les questions, mais que les choses soient claires.
Oui, bien sûr. Donc je suis français, je suis né en France, mais d'origine maghrébine, d'origine marocaine,
d'accord.
De parents marocains.
Donc vous jouez tous les dimanches ?
Oui, tous les dimanches.
Donc ça fait, vous avez 34 ans, donc vous êtes plutôt en fin de carrière aujourd'hui de football amateur ?
Oui, on va dire que mes belles années sont derrière moi.
Bon. Vous jouez à quel niveau ?
En
R3. Régional 3, ce qui est déjà un très bon niveau, hein.
Ouais, c'est ça.
Franchement, pour jouer à votre niveau, tout le monde n'est pas capable de le faire. Alors, moi, je voudrais savoir, parce que ce qui m'intéresse, c'est toujours les exemples. Par exemple, on est en 2020. Est-ce que, contre vous, en 2020, il y a eu des paroles, des actes racistes proférés à votre encontre ?
Bien sûr, Pascal. Il n'y a pas plus longtemps que ça, en début de saison, là, juste avant qu'il y ait les trêves par rapport au Covid. Un cas simple, on est parti jouer en premier tour de Coupe de France dans un petit village près de Valenciennes. Et l'arbitre assistant qui nous avait arbitré, donc signale un jeu par rapport à notre attaquant. Et notre attaquant s'en va s'expliquer directement à l'arbitre comme quoi il y avait une erreur. Et là, s'en est suivi des insultes racistes, mais totalement gratuites.
Mais ça, il y avait des témoins de cela ?
Ah oui, il y a des, il y avait les gens supporters de l'autre équipe.
Donc c'est l'arbitre, qui a proféré ces insultes. Bon, mais pourquoi vous vous quittez pas le terrain ?
Bah, c'est ce qui s'est passé justement au bout de la mi-temps. On a décidé de pas reprendre exactement ce qui s'est passé hier.
Et,
avec le,
et la avec suite, le la suite.
Et la suite, c'est que c'est en cours. Bah, instance auprès de la commission du district. Enfin, nous, c'est le district de Lescot en l'occurrence.
Le district de
Lescot.
Lesco,
c'est ça, à Valenciennes, et donc du coup, c'est toujours en cours. Et donc, du coup,
Il y a une instruction en cours. Mais pour un match de R3, il n'y a pas de délégué, si ?
Il y a le délégué de terrain qui a pris les choses en considération, etc. Et Là, on est toujours dans l'attente, en fait.
Bon, et alors, les insultes, on peut les dire à l'antenne? Parce que il faut nommer les choses. C'est ça qui m'ennuie en fait, toujours. C'est la phrase de Camus qu'on met à tous les... Évidemment, à toutes les sauces. Mais mal nommer les choses participe au malheur du monde.
Bien sûr, Pascal. Donc, en fait, il y a eu un positionnement hors-jeu imaginaire. En fait,
ouais.
Pas parce que... Donc, du coup, l'arbitre assistant a levé leur jeu. Donc, on a tout simplement demandé les raisons pour lesquelles, comme quoi elle devait se justifier par rapport au jeu. Et la phrase qui lui a répondu l'arbitre en courant, et ça, c'était en courant derrière lui, c'était « Tais-toi, sale arabe, c'est moi qui arbitre ». Comme
donc
ça, c'était totalement
donc...
gratuit.
Non, mais c'est, non seulement c'est gratuit, mais ça tombe sous le coup de la loi.
Sans aucune... Enfin, mais voilà. Mais moi, ce qui s'est passé...
Parce qu'on le dit sans arrêt, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Donc, ce qu'il dit là tombe sous le coup de la loi.
Exactement. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en amateur, c'est pas du tout comme les professionnels. Le rapport a été fait à sa sauce à lui. Comme quoi, c'était mon joueur qui l'aurait soi-disant insulté en premier.
Oui, et comme toujours.
Ah, voilà, quoi, comme toujours.
Enfin, c'est minable, voilà. C'est désespérant de minable. Et effectivement, c'est difficile de rester sur un terrain après. Et s'il y a un type qui est arbitre de touche et qui le dimanche vient sur un stade de football pour dire cela, qui reste chez lui, ça arrangera. Voilà, ça arrangera tout le monde.
Il y a des gens qui sont plus passionnés que ça pour venir le dimanche, et ces gens-là n'ont vraiment pas leur place au sein du sport, tout simplement.
C'est je suis bien d'accord avec vous. Alors évidemment, ce sont des actes individuels. À chaque fois, c'est pas le... Il n'y a pas de racisme systémique, me semble-t-il, en tout cas dans le monde du football, ni dans le sport. Ah. Et au contraire, véritablement, la phrase exacte de Camus, c'est mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Bah merci, Jamel. Vous jouez dimanche ?
Il n'y a pas de souci, Pascal. Bah, c'est encore la remise, là. Donc on peut pas encore jouer.
Ah oui, vous pouvez pas jouer. Parfois j'oublie qu'on est confiné. Évidemment.
Confiné, normalement on peut reprendre les entraînements à partir du 12.
À 34 ans, ça va être dur de reprendre l'entraînement, hein. Vous êtes rouillé parce que 34 ans jouer en R3 parce que vous jouez avec des gosses qui ont 18 ans.
Bah 19, 21, mais bon, je fais
vous êtes numéro 5.
Exactement, défenseur central.
Oui, bah bien sûr, ça c'est, j'ai bien compris l'affaire. Défenseur central, 34 ans. Les gens, ils ne se rendent pas compte, en fait, du niveau de R3.
Exactement.
Ils ne se rendent pas compte que c'est des super footeux. Bon, mais merci, Jamel. C'était un plaisir de vous avoir. Il est 13h27, tous les jours à 13h30. C'est Noël qui arrive avec d'abord un témoignage. En l'occurrence, ce sera celui de Céline. Et avec une chanson. Et pour tout dire, je ne sais jamais la chanson qu'a choisi l'auditeur ou l'auditrice. Donc j'attends avec impatience. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et à 13h30, on est donc avec Céline. Comme tous les jours, c'est le rendez-vous de Noël. Bonjour Céline.
Bonjour Pascal.
Et merci de nous faire partager votre Noël à vous, un souvenir.
Ça a déjà un plaisir pour moi, donc c'est partagé du coup.
Alors, c'était quand, c'était où, c'était comment?
Alors, c'était dans... Alors, la date exacte, je pourrais plus vous dire l'année, mais entre 86 et 88 à peu près, donc j'avais entre 8 et 10 ans. Et en fait, j'étais avec mes cousins et cousines, et donc à ce moment-là, il n'y avait pas tous ces écrans qu'il y a aujourd'hui, on s'occupait autrement. Et on préparait des petits spectacles avec mes cousins et cousines. Donc c'était moi l'aîné, donc c'était un peu moi qui devais un peu chapeauter tout ça. Et donc chacun apportait ses petites idées, et puis moi j'étais un peu, je mettais en scène tout ça. Et puis on était comme des bébés. C'était marrant parce qu'en fait on avait l'impression qu'on allait leur retranscrire un spectacle grandiose. Et puis on arrivait dans la salle à manger, et puis du coup on leur refaisait notre petit spectacle. Et puis ils étaient bon public, donc ouais, ils nous applaudissaient et tout ça, et puis on passait notre soirée à ça.
Bah c'est bien.
Ouais, de bons souvenirs comme ça en famille avec mes cousins et cousines. Et
c'était quoi le spectacle, vous vous souvenez?
Ah non, je me souviens pas, mais alors c'était des petites scènes de vie, alors certaines en lien avec Noël, pas forcément, mais voilà, on parlait de tout, de rien, des petites scènes de vie.
Que vous écriviez,
bah,
que vous improvisiez.
Voilà. Voilà, c'est ça. On improvisait et puis alors on s'isolait parce qu'en fait, dans la maison de mes parents, c'était une grande maison, un peu une maison de maître avec un couloir central. Donc mes parents étaient sur la partie de droite et nous on s'isolait dans la partie de gauche et donc du coup on avait l'impression d'être vraiment isolés et on pouvait faire ça en secret et on préparait nos petites scènes et puis chacun apportait sa pierre. Alors moi je voudrais parler de ça et puis moi je voudrais parler de ça et puis cette semaine il m'est arrivé ça à l'école et puis alors ben voilà on va faire ça comme ça et puis alors les détails précis évidemment hein, ça remonte à 30 ans, je sais plus.
Bon aujourd'hui vous êtes infirmière, vous êtes à Lille, d'ailleurs infirmière vous êtes en libéral ou vous êtes à l'hôpital?
À l'hôpital.
Bon, et c'est rude en ce moment ?
Pour moi, ça va. Moi, je travaille en psychiatrie et pour le moment, ça va. On n'a pas été trop touché par la seconde vague. Pour ma part, dans mon service, ça s'est bien passé.
Bon, je ne vous invite pas à venir travailler dans nos milieux de la radio et de la télévision. Vous auriez peut-être du travail à faire si vous intervenez en psychiatrie. Mais en tout cas...
Avec plaisir.
Non, mais c'est pour...
Vous croyez ?
Mais je blague. De toute façon, on a tous... Hein, franchement... On est tous un peu fous, peut-être. Dites-moi, la chanson que vous avez choisie, quelle est la chanson que vous avez choisie?
Alors, c'est une chanson qu'en fait, j'avais à l'époque chantée pour mes parents pour un spectacle de Noël à l'école, justement. Mmh. Et c'était « L'enfant au tambour » de Nana Mouskouri.
Bah écoutez, on va l'entendre. Allons-y. Noël.
Oui, bah, apparemment c'est une chanson de Noël. À l'époque, j'avais pas bien compris de quoi il s'agissait, mais depuis, je l'ai réentendue dans le.
Et alors, c'est l'enfant au tambour et dans la crèche.
C'est dans la crèche, il me semble que c'est un petit garçon, si j'ai bien compris, alors ça remonte à loin, un petit garçon qui joue du tambour, qui a été apporté par les rois mages, et qui joue du tambour devant Marie et Jésus, il me semble.
Eh ben écoutez,
je peux tromper, hein, mais
non, non, mais moi,
désolée.
Alors tout le monde connaît cette chanson, évidemment, de Nana Mouskouri. Donc, alors j'ai retrouvé les paroles. Sur la route, parapapambam, petit tambour s'en va. Il sent son cœur qui bat au rythme de ses pas. Oh, petit enfant, où vas-tu? Hier, son père a suivi le tambour des soldats. Alors, je vais au ciel. Oui, c'est peut-être pas tout à fait Noël d'ailleurs, mais bon, disons qu'on l'écoutera à Noël aussi.
Voilà. Oui, bah, en tout cas, je me souviens l'avoir appris pour un spectacle de l'école à Noël. Et il me semble qu'il y a une connotation quand même religieuse dans la création de cette chanson.
Eh bien, merci en tout cas. Et puis, ça nous a permis de réécouter Nana Mouskouri, qu'on entend assez peu, cher Laurent
oui,
Tessier. Merci,
vrai,
Céline.
Raison, ça nous a fait du bien.
Ah, alors, il y a un cadeau, Damien Béchiot.
Oui, on a failli oublier.
Mais alors, mais il est où, Monsieur Cadeau? Vous êtes Monsieur Cadeau bis?
C'est moi aujourd'hui, Monsieur Cadeau.
Ah.
Et pour Céline, j'ai un superbe food truck Playmobil.
Je ne sais pas ce que c'est.
C'est un camion où on peut préparer
un food truck.
Un food truck.
Ah oui, mais c'est un...
Je sais pas si Céline a des enfants ou pas.
Ah, mais c'est assez beau, ça. Est-ce que je peux le voir, ça?
Oui.
Oui, c'est très très. Mais les cadeaux sont vraiment. Alors là, c'est pas des
on
cadeaux.
Jean Benadi.
On se fiche pas de vous, si je me permets,
bah,
parce que ça, c'est un très très
beaucoup.
Beau cadeau. Hein. Vous avez des enfants?
Oui, tout à fait.
Bah,
deux.
Ça tombe très bien.
Quel âge ils ont?
Ma fille a 12 ans et mon fils vient d'avoir 7 ans.
Bah alors, c'est parfait. Comment répéter le nom du cadeau?
C'est un food truck Playmobil.
Donc, c'est un camion Playmobil.
Merci beaucoup.
Voilà, traduit,
c'est ça. Fait très plaisir.
Merci beaucoup, Céline. Et vraiment, joyeux Noël à vous.
On
avance, puisqu'on est le 9 décembre, quand même, aujourd'hui.
Ça s'approche.
Bah, ça s'approche.
On y arrive, on y arrive.
C'est le calendrier de l'Avent. Merci. 13h36, qu'est-ce qu'on fait? On passe une page de pub ou vous nous dites le teasing entre 14h et 14h30?
Allons-y, soyons fous, Pascal. Une rencontre interrompue après des accusations de racisme, le match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le club turc Başakşehir ne manque pas de faire réagir depuis hier soir. Vous avez choisi ce sujet pour démarrer l'émission. Rappel des faits avec Philippe Sansfourche.
Oui, l'incident s'est produit à la 13e minute du match. Il est 21h15 quand l'arbitre assistant, le Roumain Sébastien Costescu, veut alerté son arbitre principal, lui aussi roumain, M. Ategan, d'un comportement déplacé de Pierre Webo, entraîneur adjoint du Beşiktaş Istanbul. Et pour le désigner sur le banc de touche, il emploie le terme « négrou », le noir en roumain. Pierre Webo entend le mot, la colère monte immédiatement, l'arbitre principal sort le carton rouge. S'ensuit alors un attroupement général.
Les joueurs quittent le terrain, le match ne reprendra pas. Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a dénoncé des incidents inacceptables. Alors, est-ce un tournant dans le monde du football? Les deux équipes ont-elles eu raison d'arrêter le match? Cette réaction des joueurs vous paraît-elle importante dans la lutte contre le racisme? Avec nous en studio, à 14h, le journaliste sportif Gilles Verdez, que vous connaissez bien sur RTL.
Exactement, et qui est engagé dans cette cause contre le racisme. Ce sera un plaisir tout à l'heure de l'écouter. Il est 13h37. On peut parler d'autre chose. Hein. On peut parler de Nicolas Sarkozy, si vous le souhaitez. On peut parler du Covid, évidemment, si vous le souhaitez. On peut parler également du confinement et de la sieste. Puisqu'un sondage nous
très
indique...
Sérieux.
Très sérieux. Que
34% des Français ont pratiqué des siestes crapuleuses lorsqu'ils étaient confinés.
Bah oui, parce qu'effectivement, ils ne sont pas au travail, donc ils peuvent faire des câlins.
Ah, c'est mignon.
Bah bien sûr.
Et voilà. On se sent mieux après.
J'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire ça dépend avec.
Ah, voilà. Un peu de bonheur, priori, un peu d'amour dans ce monde de brut.
Mais a priori, bien sûr. Alors voilà. Donc si vous voulez intervenir sur ce sujet capital.
Si vous faites des câlins, appelez-nous.
Après la sieste.
Appelez-nous, bien évidemment. Nous ne pouvons pas faire la sieste puisque nous sommes à l'antenne à l'heure de la sieste, précisément.
Exactement.
Mais c'est une sorte de relation amoureuse également que nous avons avec nos auditeurs.
Ah, vous êtes romantique en ce moment. Ça me fait du bien.
Je partage cet avis. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Vous vous souvenez de ce sketch de Guy Bedos? Ah, le foot, il n'y a plus que le foot. Bah, là, il n'y a plus que le foot, manifestement, puisque j'ai essayé de faire intervenir les auditeurs aujourd'hui sur d'autres sujets, mais vous souhaitez parler football. Fabrice, bonjour.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes commercial à Mulhouse. Votre sentiment sur ce qui s'est passé hier?
Mon sentiment, il est mitigé. Alors d'abord, moi, je veux pas dédouaner ce qui s'est passé hier avec l'arbitre, parce qu'effectivement, ça ne devrait pas... Enfin, il a fait une erreur. Maintenant, l'envoyer à la vindicte populaire avec Boulou Pilori, parce qu'il a prononcé le mot noir, qui est négrou dans sa langue maternelle, je trouve que c'est un peu abusé. Voilà. Et je trouve que la réaction des joueurs est disproportionnée. Je pense effectivement, comme un des premiers auditeurs que vous avez eu, Jackie, je crois... l'entraîneur de foot, mais l'autre, que effectivement les joueurs ont compris négro et que négro est une insulte. Je pense que même aux États-Unis, les noirs s'insultent entre eux en se traitant de négro. Et donc je pense qu'effectivement ils ont compris ça et qu'ils ont pété un pont à cause de ça. Mais je ne vois pas, si vous voulez. Pourquoi ils ont réagi
Mais parce qu'ils se sont sentis insultés, tout simplement.
Mais
c'est un fait, ils ont réagi comme ça.
Mais non, est-ce que vous avez déjà vu des joueurs, d'accord, réagir comme ça alors qu'il y a des abrutis dans les stades qui font des cris de singe? Et là, c'est vraiment une insulte.
Oui, mais là, tu ne peux pas réagir dans un stade.
Tu peux réagir.
Non, mais tu peux pas réagir. Comment dire? Tu ne peux pas nommer ton interlocuteur. Là, ils l'ont vu, ils l'ont entendu, il est en face d'eux. Ouais, c'est différent d'un supporter qui est dans une masse anonyme.
Pascal, souvenez-vous de ce qui s'est passé en Italie avec Matuidi. Mmh. D'accord? Vous vous rappelez de ces images où Matuidi a voulu sortir du terrain parce qu'il y avait des insultes, parce que ça avait été... Il visualisait très bien les gens qui...
Mais qu'est-ce que vous voulez dire au fond? C'est ça que je comprends pas.
Moi, ce que je veux dire, c'est que j'aurais du respect pour les joueurs qui sont d'abord ultra communautaristes, et c'est pas vous que je vais l'apprendre, parce que vous avez baigné dans le foot. Mais quand on parle du PSG, quand on parle des Brésiliens, on sait pertinemment qu'ils ne restent qu'entre eux, ils sont hyper communautaristes. On sait que Neymar, il a eu des petits soucis avec Sakai, qu'il a dit des mots qui n'étaient pas très très sympas.
Non, mais le problème, c'est que c'est à la fois vrai ce que vous dites, parce que faut pas se raconter de salade. Moi, j'ai été dans le foot, comme vous le dites. Ce qui est vrai dans le football, c'est que les Brésiliens sont souvent avec les Brésiliens. Dans le temps, les Yougoslaves étaient avec les Yougoslaves, etc. Tout ça est vrai. Mais en même temps, tout le monde se met ensemble dans le vestiaire pour partager une histoire commune. Et c'est ce que fait Didier Deschamps, tout à fait. Dans la vie privée, peut-être que les Brésiliens sont plus avec des Brésiliens et que, ceux qui ont des attaches les uns les autres se retrouvent. Mais on s'en fiche. L'important, c'est ce qui se passe dans le vestiaire et sur le terrain. Et là, hier soir, qu'est-ce qu'ils veulent ? Peut-être que les joueurs, ils sentent que c'est le moment de prendre le pouvoir. Donc ça, effectivement...
Pas, ce qu'il a dit. Imaginez-vous que c'est...
Ils veulent faire un acte politique, peut-être.
Ouais, mais,
peut-être pour justement mettre les caméras sur cela et pour dire stop.
Mais c'est pas le bon moment.
C'est jamais le bon moment. Pourquoi ça serait pas le bon moment ?
Bah parce que je pense que c'était plus le bon moment quand il y a eu PSG-OM que maintenant.
Moi,
je pense parce que là effectivement, il y avait des insultes. Là, il n'y a pas eu d'insulte. Mais noir, c'est pas une insulte, Pascal. Quand on dit à quelqu'un qui est noir...
Là, pardonnez-moi, vous jouez sur les mots. De signaler quelqu'un en disant « c'est le noir, là, qu'il faut virer », excusez-moi, au minimum, c'est discriminatoire. Et évidemment, c'est une manière...
C'est un autre problème. Mais c'est pas du racisme.
Mais ils l'ont vécu, je vous le répète, ils l'ont vécu comme ça.
Ils l'ont mal vécu. Moi, je pense, voilà, aujourd'hui, je pense qu'ils l'ont mal vécu. Je pense qu'il y a beaucoup d'occasions pour lutter contre le racisme dans le football. Et il faut le faire. Moi, mon fils a 9 ans, il joue au foot, et je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec un autre auditeur, il n'y a pas de racisme dans le football amateur.
Enfin, moi, il y en a aussi, mais il y en a comme partout dans la société.
Ouais, mais voilà, mais quand moi, je suis sur le bord des terrains tous les week-ends avec mon fils quand on peut y aller, voilà, combien de fois on entend, c'est le petit black, le petit machin, le petit rebeu, le petit. Et voilà. Et alors, il faut qu'on se fâche à chaque fois. Moi, je vais vous dire un truc, et c'est ce que j'ai dit à la personne que j'ai eue, à votre assistante. Mon fils est issu d'un mariage, enfin d'une union mixte, hein, c'est-à-dire que moi je suis d'origine breton et la maman de mon fils est d'origine algérienne, d'accord. Et quand on posait des questions à la maman de ma compagne, savoir si elle avait quelqu'un, elle disait oui, elle a trouvé un petit français qui est très bien. Est-ce que je dois m'offusquer de ça? Parce que sinon, on s'offusque de tout. On ne peut plus dire le petit, on ne peut plus dire le gros.
Mais c'est peut-être la société, elle a changé et il faut entendre que ce qu'on pouvait dire jadis, peut-être on blesse des gens le disant aujourd'hui et ça s'entend.
Je pense qu'on est dans une période de transition et que ce n'est pas facile.
Et moi, franchement, je ne veux pas jouer les bisounours et je suis dupe de rien, vous le savez bien. Je sais bien l'instrumentalisation qui peut exister sur certains sujets.
Et c'est ça qui me choque. Mais
je vais vous dire... là où je pourrais vous rejoindre, Fabrice, les footballeurs, je les connais aussi. L'année prochaine, ils iront jouer la Coupe du Monde au Qatar. Et le Qatar est un pays homophobe, en tout cas, qui a un rapport avec les droits de l'homme qui n'est pas exactement le même que dans nos sociétés. Et ils iront quand même. Donc je ne suis dupe de rien, bien sûr. Et que ce qui se passe là-bas, lorsqu'on a construit les stades, la manière dont on a construit les stades, il y a beaucoup d'enquêtes aujourd'hui qui ont été faites sur ce point de vue-là. Les conditions des droits de l'homme n'ont pas toujours été respectées. Et ils les défendront sans doute pas. Ils iront jouer comme un seul homme, si j'ose dire.
Mais vous n'avez pas besoin d'aller à la Coupe du Monde. Je veux dire, l'actionnaire majoritaire du PSG, c'est le Qatar.
Mais bien sûr.
D'accord. Neymar, il prend son chèque. Mbappé, il prend son chèque.
Les indignations sélectives, je les connais aussi. Voilà. Mais ce n'est pas le sujet, Fabrice. En tout cas, c'était bien de discuter avec vous.
Faut pas se méprendre. Hein.
Non, je ne me méprends pas.
Je cautionne pas ce qui s'est passé.
Mais j'ai bien compris.
Je ne cautionne pas non plus, si vous voulez, l'attitude des joueurs, parce que je trouve que c'est un peu sauté sur l'occasion. Quoi. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir.
C'est moi qui vous remercie. Pas de sieste, Fabrice, aujourd'hui ?
Non, pas de sieste, parce que malheureusement, je suis tout seul, moi.
Mais vous êtes pendant le confinement, il y a une petite sieste en télétravail, non ? Parce que sujets.
Oui, pendant le confinement, il y a toujours une petite sieste après le télétravail.
Oui, mais c'était une sieste.
C'est une sieste, voilà.
Voilà, une sieste seule.
Une sieste
reposante.
Ça va être un moment de
repos. Bon. Merci, voilà. Fabrice.
Merci, continuez.
13h48, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Ah, le foot. Il n'y a plus que ça.
Eh bien, il n'y a que le foot, effectivement, aujourd'hui. Mais voyez, par exemple, ce sketch, c'est très intéressant.
La France est foutue.
Il caricature Guy Bedos, un homosexuel. Et il se moque à l'époque d'un homosexuel qui est joueur de football du Paris Saint-Germain. Et il se moque en prenant le ton, entre guillemets, d'un homosexuel efféminé, comme on pouvait se moquer dans les années 80 ou 70 à la manière un peu de la cage aux folles. ce sketch aujourd'hui, je pense qu'il aurait beaucoup de mal à passer, puisqu'on y verrait précisément une manière de stigmatiser un homosexuel et de le désigner sous le terme de folle, effectivement, ça passerait plus difficilement. On est avec Gilles Verdez qui est arrivé et qui parlera tout à l'heure sur ce sujet. C'est intéressant parce que je connais la position de Gilles. Gilles, il dit on blesse toujours quelqu'un quand on fait de l'humour, donc faut plus faire d'humour, comme ça on blessera personne.
Bonjour Pascal, Bonjour. Avez très bien résumé ma position.
Oui, alors c'est bien, votre société elle est sympa, parce qu'évidemment quand on se moque, on peut toujours blesser quelqu'un, mais à ce moment-là c'est une société que je trouve un peu tristounette, si vous me permettez, mais vous pourrez vous expliquer tout à l'heure. Alors, Jean-Denis est là pour le moment, c'est un ex-dirigeant et arbitre bénévole, vous habitez en Vendée et vous réagissez sur ce qui s'est passé hier soir. Bonjour Jean-Denis.
Bonjour Pascal et bonjour Gilles. Comme vous l'avez dit, j'ai été effectivement dirigeant pendant une quinzaine d'années, arbitre bénévole, jusqu'en U17, ça va vous parler.
Bien sûr.
Dans les Yvelines, entre Versailles, Viroflay, Le Chesnay. J'ai fait trois clubs. Moi, je trouve la réaction des joueurs très exagérée pour des professionnels. Faut pas oublier que ce sont des professionnels. Ils ont commis une erreur à mes yeux, c'est qu'ils ont à la fois été juge, et en plus ils ont exécuté la sentence en arrêtant de jouer immédiatement, alors que on n'avait pas du tout fait l'instruction du pauvre.
Mais ils ont entendu le mot, ce mot les a choqués et ils sont sortis. Il n'y a pas besoin d'instruction, le mot était.
Ils ont entendu noir et ils sont sortis.
Mais ils ont entendu négro, qui est connoté nègre.
Il fallait qu'ils soient un peu plus intelligents, qu'ils acceptent que ce soit un mot qui soit dit dans une langue étrangère et qu'ils en fassent une étude, c'était ça l'instruction, avant de réagir d'une manière extrêmement épidermique et non professionnelle. Alors, je dis ça en préalable parce que moi je peux vous dire que pour avoir arbitré pendant une dizaine d'années, les premiers qui s'insultent sur un terrain, ce sont les joueurs eux-mêmes. Et j'en ai entendu de toutes les couleurs. Les joueurs entre eux sont homophobes, racistes, ils insultent la maman du joueur adverse dans des propos que je ne qualifierai pas ici et je ne répéterai pas. J'en ai vu de toutes les couleurs, c'est presque ce qui m'a
fait. Non, mais ça, c'est vrai aussi. Vous avez raison, c'est vrai. Ça l'était en tout cas, je ne sais pas si ça l'est encore, mais ça l'était. Ce que vous dites est juste, effectivement, et l'exemple de Zida de Materazzi, où Materazzi avait insulté manifestement.
Pour les pros.
Oui, mais même, c'est vrai que sur un terrain, les gens s'insultent. Vous avez raison, vous avez raison.
Tout le temps.
Tout le temps, mais c'est vrai.
Et il n'y a que l'arbitre qui peut entendre, parce que ça se fait, ils sont malins, ils le disent pas trop fort, mais par contre, je peux vous dire que d'abord, ils se flanquent des coups, parfois pas aimables, mais quand vous...
C'est une manière de déstabiliser, ces insultes aussi sont une manière de déstabiliser l'adversaire.
Bien sûr, quand vous arbitrez des U15...
Mais c'est pas une bonne chose.
C'est des pires, mais c'est pas une bonne chose, bien évidemment, c'est ce qu'il y a de pire, mais...
Mais qu'est-ce que vous voulez dire ?
À s'insulter entre eux.
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire ?
Mais parce qu'ils entendent une insulte qui vient de l'extérieur, c'est hors de leur petit périmètre. Ils s'autorisent entre eux à s'insulter, à se traiter d'enculé en permanence. Et puis, dès qu'il y a quelqu'un qui dit...
Nous sommes sur l'antenne d'RTL, il est 13h55.
C'est l'heure de la pause et de la sieste, je sais. Dès qu'il y en a un qui est sur le bord de la touche qui dit la même chose, ah ben non, tout le monde s'offusque. Je trouve qu'ils
sont... Oui, c'est vrai. Voilà, mais ces mots-là, c'est vrai qu'il y a...
Il y a au-delà du raisonnable. Il fallait qu'ils continuent à être professionnels, qu'ils jouent et qu'ils attendent...
Mais ils l'ont été d'ailleurs professionnels, parce que là, d'une certaine manière, ils défendent une cause et ils pensent, à tort ou à raison, qu'il fallait... frapper un grand coup.
Et s'ils défendent cette cause, il faut que ce soit les premiers à ne pas utiliser le terme de PD, de tout ce que vous voulez sur un terrain pendant 90 minutes. Et puis là, ils pourront la défendre la cause parce qu'ils auront la légitimité pour la défendre. Et aujourd'hui, ils ne l'ont pas parce que dans tous les matchs de foot que vous pouvez voir, aussi bien en amateur, en professionnel, on le voit moins parce qu'on entend moins ce qu'ils se disent, mais en amateur, c'est tout le temps.
Mais vous arbitrez encore aujourd'hui ?
Alors, j'ai arrêté. J'ai arrêté il y a 3 ans et je peux vous dire que...
Vous arbitriez où ?
J'arbitrais dans les Yvelines, donc avec parfois des équipes de beaux quartiers comme le Chesnay et à la fois des gens comme la Verrière qui étaient un petit peu moins haut de gamme, ou Trappes, voilà. Mais attendez, les insultes, elles venaient des deux côtés. Hein. Faut pas dire que c'est les gens de la Verrière qui insultent le Chenet. Non, ça venait des deux côtés et bon. C'était les mêmes insultes.
Hein. Je vois qu'il boue, mais il n'a pas le droit de parler avant 14h.
Ah, il peut, il
non, mais il boue, il boue, il est sur sa chaise.
Il le sait tout ça, Gilles. Je lui apprends rien. Il connaît le football.
Gilles, vous savez tout ça ?
Non, j'ai jamais entendu de telles insultes sur le terrain de football.
Non, arrête, Gilles.
J'ai passé des décennies sur les terrains de football amateurs. Et c'est pas vrai que ces insultes sont banalisées sur les terrains. Bah non, c'est pas vrai.
Gilles.
Je connais très bien les Yvelines en plus.
Mais enfin, Gilles, j'étais sur les terrains pendant 20 ans. Dis pas que les gens s'insultent pas sur un terrain de football quand même.
Ah non, pas ces insultes-là. Je suis désolé. C'est pas commun, c'est pas courant et c'est pas bien.
Bon. Eh ben allez voir les jeunes, vous verrez, c'est du commun, c'est du quotidien.
Gilles se bouchait les oreilles, manifestement.
Voilà.
Il est 13h57, ça va être passionnant cette demi-heure. Et Olivier Bois rentre pour le flash de 14h et puis continuez de nous écouter. Et à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h. Olivier Bois, le flash.
Ce texte n'est pas contre la religion, mais contre l'idéologie pernicieuse de l'islamisme radical. C'est ainsi que Jean Castex a présenté à l'instant le projet de loi contre les séparatismes. Une cinquantaine d'articles, parmi lesquels un renforcement en cas de besoin des pouvoirs du préfet si des dérives sont notées dans certains lieux de culte ou si un maire est jugé, par exemple, laxiste face à des comportements séparatistes et dangereux. La fin du match PSG-Başakşehir se jouera ce soir à 18h55 au Parc des Princes. Le monde du sport est secoué et assez unanime après la réaction solidaire des joueurs de quitter le terrain hier soir pour protester contre un mot jugé raciste prononcé par l'arbitre assistant. Pour ce qui est du résultat, le PSG est qualifié quoi qu'il arrive pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après la victoire de Leipzig hier soir face à Manchester United. Autre match ce soir à 21h, Marseille qui affronte Manchester City pour tenter de décrocher la troisième place de son groupe et donc une qualification pour la Ligue Europe. Au Royaume-Uni, les autorités sanitaires déconseillent aux personnes ayant connu par le passé d'importantes allergies de se faire vacciner avec le vaccin Pfizer-BioNTech. Deux personnes ont fait en effet une mauvaise réaction depuis lundi, jour où la campagne de vaccination a commencé outre-Manche. Les courses à Vincennes à l'instant l'arrivée provisoire, le 7, le 14, le 9, l'As et le 8. Et la météo de demain, une perturbation pluvieuse et venteuse va arriver par l'ouest et traverser quasiment tout le pays dans la journée. Elle donnera à nouveau de la neige en montagne.
Merci Olivier Bois. Merci beaucoup. Et ces informations sont importantes sur le vaccin parce qu'effectivement, c'est la première fois que j'entends qu'il y a eu deux réactions, disiez-vous.
Ouais. De gens qui avaient déjà connu par le passé précisément d'importantes allergies. C'est pour ça que les autorités sanitaires prennent cette précaution.
Eh bien, je ne doute pas que cette information ne soit pas tombée dans l'oreille d'un sourd, comme on dit. Laurent Tessier.
Une rencontre interrompue après des accusations de racisme. Le match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le club turc Başakşehir est le sujet qui vous fait réagir depuis le début de l'émission. Rappel des faits avec Philippe Sanfourche.
Oui, l'incident s'est produit à la 13e minute du match. Il est 21h15 quand l'arbitre assistant, le Roumain Sébastien Costescu, veut alerter son arbitre principal, lui aussi roumain, Monsieur Ategan, d'un comportement déplacé de Pierre Webo, entraîneur adjoint du Başakşehir Istanbul. Et pour le désigner sur le banc de touche, il emploie le terme négrou, le noir en roumain. Pierre Webo entend le mot, la colère monte immédiatement, l'arbitre principal sort le carton rouge. S'ensuit alors un attroupement général.
Les deux équipes quittent le terrain, le match ne reprendra pas. Le ras-le-bol titre l'équipe aujourd'hui. Les joueurs ont dit stop, écrit le Parisien. L'ex-international français Djibril Cissé était l'invité d'Yves Calvi ce matin.
Hier, j'étais un peu choqué, un peu scandalisé de ce qui s'est passé. Parce que le racisme est un fléau qui commence à peser lourd dans le monde et dans le monde du football. J'ai été victime de quelques situations où le racisme a pris place et c'est vraiment pas cool à vivre.
Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a dénoncé des incidents inacceptables. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a réagi chez nos confrères d'info.
Connaissant la langue roumaine, je sais que négrou, ça veut bien dire noir et pas nègre. Je suis effectivement convaincue qu'on ne désigne pas quelqu'un par sa couleur de peau et je vais même plus loin, par sa différence.
Alors, est-ce un tournant dans le monde du football ?
Évidemment, la réaction est légitime, il n'y a pas de sujet. Enfin, je veux dire, qui ne pourrait pas se rendre d'accord avec ça ?
Marion Maréchal qui a pris la parole sur RTL avec Alba Ventura. Les joueurs ont-ils eu raison de quitter le terrain ? Cette réaction des joueurs vous paraît-elle importante dans la lutte contre le racisme ? Y a-t-il du racisme justement dans le football ? Qu'en pense Noël Le Graët ?
Le football n'est pas raciste.
Avec nous en studio, le journaliste sportif Gilles Verdez, que vous connaissez bien sur RTL.
Et je le remercie, Gilles, puisque c'est un vieux compagnon de route.
Plaisir partagé toujours.
Merci, vous gardez votre masque avec nous.
Je me suis conformé au protocole que l'on m'a indiqué.
Eh bien, vous allez être avec nous jusqu'à 14h30. Bon, d'abord, est-ce que les joueurs ont eu raison de faire ce qu'ils ont fait hier ?
Bien sûr, j'ai été pris d'une émotion qui ne m'a pas encore quitté aujourd'hui, plusieurs heures après. C'est un geste d'une portée historique, à forte charge symbolique. Je sais que vous vous intéressez au symbole. Il fallait ce symbole de l'unité et de ce héros d'Embaba, le joueur africain de Başakşehir qui a pris les choses en main, qui est devenu le porte-parole. Je l'ai félicité personnellement ce matin parce que je le connais bien et il m'a adressé un message que je vous lis. Je lui ai dit bravo, il m'a dit non, c'est pas moi. Ils ont été braves. Je ne suis qu'une simple personne avec un fort désir de justice. Mmh. C'est désormais mon héros ad vitam aeternam.
C'est intéressant d'écouter Roxana Maracineanu. Est-ce que vous pensez qu'il y avait une intention chez le quatrième arbitre assistant, une intention raciste, ou est-ce que c'est une sorte de racisme ordinaire qu'on ne peut pas accepter de désigner quelqu'un par sa couleur, ce qui n'est quand même pas la même chose.
Absolument. On peut débattre très longuement de la traduction du roumain en français de « négrou ». Il y a une intention délibérée de définir quelqu'un par sa couleur. Et ici, en plus, c'est hallucinant, pour le stigmatiser, puisque c'est pour l'expulser. On expulse le noir, mais quel symbole, on le désigne comme noir et on l'expulse. Cet arbitre roumain est raciste, son propos est raciste, il doit être condamné et banni à vie des terrains de football.
C'est un peu rude, peut-être, parce qu'il faut l'entendre.
C'est le racisme qui est rude.
Non mais il faut l'entendre. Moi ce qui m'ennuie dans ce sujet, c'est que faut entendre quand même toutes les parties. Je veux quand même l'écouter. Je veux entendre sa défense, si j'ose dire. Je veux entendre chaque côté, chaque partie s'exprimer. Et puis après, je pourrais prendre ma décision. Donc,
face au racisme, il m'étonne que vous attendiez. Le carton rouge au dénommé Pierre Webo vient d'être suspendu, annulé par l'UEFA, qui a pris conscience.
Vous avez bien compris
passé.
Ce que je veux vous dire. Est-ce qu'il y a une intention chez lui lorsqu'il désigne quelqu'un par sa couleur, est-ce qu'il y a une intention de racisme ? C'était ça la question que je vous posais. Vous y avez répondu. Vous vous dites qu'il est raciste.
Formellement, oui.
Il est raciste.
C'est raciste.
Alors, il est 14h06. Peut-être que Joseph va pouvoir échanger avec vous. Bonjour Joseph. Et pourquoi pas réagir sur ce que disait à l'instant Gilles Verdez ?
Ah ben pourquoi pas, oui, pourquoi pas réagir là-dessus. Vous écoutez sur la route, j'ai un peu de temps entre midi et deux. Pour moi, je ne comprends pas. La plupart des associations antiracistes sont connotées sur la race. Enfin, on a la Ligue de défense des Noirs, ça existe cette ligue. Et ils se nomment eux-mêmes Noirs. Donc je ne vois pas en quoi est-ce que c'est raciste de définir quelqu'un de Noir. Ils se définissent eux-mêmes. De cette façon-là.
Gilles Verdez vous répond.
Il y a un côté stigmatisant. Et d'ailleurs, les joueurs ont tout de suite dit, quand on parle à quelqu'un qui est blanc, on ne dit pas « regarde le blanc ». Et comme par hasard, mais ce n'est pas un hasard, puisque je vous affirme qu'il est raciste. Comme par hasard, donc là, c'est qui est ce joueur, qui a parlé, qui dois-je expulser ? C'est le noir, là. Ça, c'est de la désignation stigmatisante d'un noir parce qu'il est noir. C'est la définition même du racisme, dans le dictionnaire, établir une hiérarchie entre les groupes humains.
Bon, tout à l'heure, on avait quelqu'un qui était avec nous et qui a parlé d'homme de couleur. Et moi-même, je l'ai repris à l'antenne, je lui ai dit, cette expression aujourd'hui est considérée comme raciste, un biais raciste. Et il était là précisément pour dire ce qui s'est passé hier, c'est formidable. Les joueurs ont eu raison de faire cela. Et lui-même utilisait une expression qui, parfois, est connotée et récusée par les Noirs, qui ne veulent pas qu'on les appelle hommes de couleur ou femmes de couleur.
Non, mais aujourd'hui, on peut dire il y a des Noirs et des Blancs dans le monde, ça marche. Mais là, c'est la stigmatisation, c'est la désignation, faisant exprès de quelqu'un. Parce qu'il est noir, on va le désigner comme noir pour le virer d'un terrain. Vous rendez compte de l'image.
C'est l'interprétation que vous faites.
C'est pas une interprétation, c'est une définition.
Non, c'est-à-dire qu'il le désigne par sa couleur de peau, mais c'est pas parce qu'il est noir qu'il l'expulse.
Non, mais
c'est ça, après l'interprétation que vous faites.
Pour l'expulser, il lui dit tu es noir. Exactement. C'est encore plus fou. Vous êtes d'accord avec moi, j'en suis fort aise.
Bon, en tout cas, il est 14h08 et on échange ensemble. Et surtout, vous échangez avec les auditeurs. À tout de suite.
Pascal Praud, Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Gilles Verdez est avec nous et vous pouvez l'interroger. Fabienne est avec nous, elle est médecin et elle habite Nantes. Bonjour Fabienne.
Bonjour Pascal.
Vous êtes la première femme qui intervient. Ben oui. Comme si c'était un sujet 100% masculin, je m'en étonnais.
Mais voilà, donc alors moi je vais intervenir sur trois, à triple niveau on va dire, puisque je suis une femme. Mmh. Je suis métisse, puisque mon père est noir et ma mère est blanche. Et je suis aussi maman de trois basketteurs, un amateur et deux professionnels. Donc le sport, je connais. Et moi, en fait, si vous voulez, ce qui me gêne beaucoup, c'est que ce quatrième arbitre, il a désigné une personne, non pas sur sa fonction, mais sur sa couleur de peau. Et c'est là-dessus que je trouve qu'il faut insister, c'est-à-dire que c'était l'adjoint de l'entraîneur qui était désigné comme étant virulent. Et c'était celui-là qu'il voulait désigner à son arbitre principal. Et lui, ce qu'il a sorti, c'est le noir. Moi, c'est ça qui me gêne beaucoup.
Et vous avez parfaitement raison, puisque c'est précisément inadmissible.
Voilà. Et effectivement, ça aurait été une femme qui aurait été l'adjointe de l'entraîneur, il aurait dit quoi ? La femme ? Ça aurait été un handicapé, il aurait dit l'handicapé ? Il aurait dit le gros ? Il aurait dit le bigleux ? Enfin, j'en sais pas. Vous voyez ? Et c'est ça.
C'est-à-dire qu'on est dans un temps que nous connaissons quand nous suivons les matchs de football, c'est que cet arbitre roumain, il ne connaît pas, en fait, l'équipe turque. Il ne sait pas qui est qui, au fond. Mm-hmm. Au contraire d'un arbitre français qui suit tous les matchs et qui connaît toutes les équipes de foot de France. On n'aurait pas eu ça, je pense, dans un match du championnat de France. Donc là, pour désigner celui qui est coupable, il dit à son arbitre principal... C'est le noir, effectivement.
Mais il aurait été blanc. Et... Il lui aurait pas dit le blanc. Il lui aurait bien dit l'adjoint blanc.
Mais vous avez sans doute raison. Et c'est ce que d'ailleurs a dit un des joueurs hier, turc. Et c'est pour cela que c'est discriminatoire au minimum, raciste, si on veut l'interpréter de cette manière-là.
Je ne sais pas du tout si cet arbitre-là il est raciste ou pas. Le problème n'est pas là. Mais il faut dire... sur la fonction des gens.
On ne désigne pas quelqu'un par sa couleur de peau. Alors après, Gilles va plus loin, il dit c'est parce qu'il est noir qu'il est exclu. C'est ça son interprétation après.
Du coup, si c'est ça, effectivement,
Gilles Verdez vous répond.
Pitoyable.
Oui, Gilles Verdez vous répond. Je vais vous répondre. Je répondrai d'abord à Pascal quand vous dites que l'arbitre roumain ne connaît pas l'entraîneur adjoint Pierre Webo, qui est un ancien footballeur professionnel. Ce sont des arbitres de l'UEFA.
Il y a des gens sur un banc.
Vous plaisantez, Pascal.
Non,
mais vous plaisantez.
Non, je pense qu'il ne connaît pas tout le monde, mais je n'en sais rien.
Alors, s'il n'est pas raciste, il est donc incompétent, là, alors à ce moment-là. Non, mais c'est du délire. C'est pas possible. Il le connaît, il le stigmatise. Mmh. Et moi, je suis d'accord avec vous, madame. C'est ça le point essentiel. C'est je te désigne comme noir parce que je vais peut-être dans un environnement X te faire reconnaître comme noir et donc te faire virer comme noir par mon collègue arbitre principal. C'est ça, c'est doublement pernicieux, doublement violent, doublement raciste.
Et moi, donc, j'ai pas été jusque-là, monsieur.
Non, Gilbert, moi, je vais jusque-là parce que j'accompagne votre pensée en la poussant plus loin que vous. Et je ne veux surtout pas que vous évoluiez dans votre pensée qui était parfaite. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est doublement dangereux parce que c'est parce qu'il est noir qu'il y a cet antagonisme. Et je trouve ça d'une violence inouï. Et les joueurs, à l'image de Dembaba, qui a tout de suite dit « mais vous ne lui diriez pas ça, s'il était blanc, vous ne l'appelleriez pas le blanc ». Donc Dembaba a parfaitement réagi. Voilà. Et saluons, madame, je pense que vous êtes d'accord avec moi, le courage exemplaire des deux équipes qui ont quitté solidairement, ça c'est une première historique, le terrain. Mmh. Enfin, on l'attendait, vous et moi, madame, eh bien, on a vu.
Oui, moi je suis entièrement d'accord avec ça. C'est effectivement, c'était absolument impardonnable et inqualifiable, on ne peut que partir du terrain.
Bon, merci en tout cas Fabienne. Georges est là également. Georges qui habite Saint-Malo. Bonjour Georges.
Bonjour monsieur Pro, bonjour monsieur Verdez.
Bonjour.
Donc, moi je voudrais intervenir. Il est bien évident que ce qui s'est passé hier soir est inacceptable de la part de cet arbitre international. Maintenant, vous savez, M. Verdez, quand je vous entends, souvent, on est un petit peu dans l'extrême. Moi, j'entends que ce monsieur, quand vous dites il a fait une énorme erreur. Maintenant, le traité de raciste, je vais vous dire. Ce monsieur, c'est un arbitre international. Il est donc en contact des joueurs de diversité depuis des années. Si ce monsieur
été un mauvais arbitre, s'il s'était déjà mal comporté, on en aurait déjà entendu parler, il ne serait pas aujourd'hui là où il est. Il a fait une erreur. Il doit être durement sanctionné. C'est clair. Vous savez, des fois, en l'espace d'une seconde, des fois, bah, notre vie, elle change. Vous savez, moi, je vais vous donner un exemple. J'ai connu le racisme. Je suis portugais. Moi, j'ai rien à voir. Ça se voit pas sur moi. Je ne vis pas ce qu'ont pu vivre des Djibril Cissé ou des certains joueurs dans des stades de foot où les gars font des cris de singe. Ça, c'est une véritable honte, un véritable scandale. Et ça doit être très lourdement sanctionné. Moi, je vais vous dire, j'ai vécu un jour un gars sur un terrain qui m'a juste dit sale Portos. Ce gars-là a été viré du club. Il a été totalement viré du club. Il y a eu une réunion de bureau, en deux secondes, il a été viré du club. Vous voyez, je vais vous dire une chose. À l'époque, je suis jeune, je dois avoir 15, 16 ans. Eh bien, je suis convaincu que c'est pas quelqu'un de raciste. Je suis convaincu qu'en une fraction de seconde, il a dit une connerie. On l'a viré totalement du club. Bon, c'était comme ça, ça fait partie.
Alors, ça, c'est intéressant ce que vous dites, Georges. Parce que dans les stades de football, il y a effectivement des cris racistes et parfois, il y a des attaques homophobes. Mais est-ce que ceux qui, derrière un but, au moment où le gardien dégage le ballon, disent que je ne vais pas dire là, mais que chacun comprend. Est-ce que ces gens sont homophobes ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il faut que cette critique cesse dans les stades ? Là, j'ai une réponse. Mais vous voyez, ce qu'on se dit sur un terrain et ce qu'on se dit dans un stade de football n'est pas forcément... on n'est pas forcément raciste ou, en l'occurrence, homophobe si on dit ces mots-là.
Je trouve que Georges et sans doute Pascal, vous avez en vous une bonté, une capacité de résilience que je n'ai pas, mon cher Georges. Et moi, quand on vous traite de sale Portos, ce qui est ignoble, j'en suis meurtri pour vous, eh bien, je ne peux pas imaginer que quelqu'un proférant cette injure ne soit pas raciste. Je ne peux pas imaginer que des gens criant des choses terribles derrière un but, comme vous le disiez, Pascal, ne soient pas homophobes. Bien sûr, Les paroles que l'on profère nous définissent. Donc oui, monsieur, cette personne qui a été virée, et très bien, les instances de votre club à l'époque ont très bien réagi, oui, elle était raciste.
14h18, et nous continuons le débat tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Vous avez été vraiment très nombreux à appeler aujourd'hui. Bernard est là, qui habite dans les Hauts-de-Seine et qui voulait réagir sur le match arrêté hier soir. Bonjour Bernard.
Oui, bonjour Pascal. Écoutez, j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec vous de football. Je connais bien le foot de par mon âge, 74 ans. J'ai connu le foot à partir des la fin des années 50. Mais je dois dire que sur l'événement d'hier soir, effectivement, on ne peut pas juger si cet arbitre était raciste ou pas. En tout cas, les joueurs ont eu raison, ça c'est indiscutable. Maintenant, il y a une chose qui me choque beaucoup en entendant tous les commentaires et depuis un certain temps. Qu'est-ce que le foot, le sport maintenant est devenu triste et ennuyeux par rapport à une époque qu'on a connue il y a 30-40 ans. Franchement, on ne parle plus. Quand il y a un match de foot, on arrive souvent à parler d'autre chose. Est-ce que c'est votre avis ? Moi, ça me désole. Le foot est devenu autre chose. Bien sûr, je sais que c'est une marchandise, mais c'est l'objet de tout.
Alors, c'est pas trop notre débat du jour, mais comme il reste quelques minutes, peut-être que Gilles veut bien vous répondre.
Oui, je voulais finir ma pensée avant que je... C'est ce qui m'attriste, c'est ce qui m'éloigne un peu du foot de maintenant, enfin du sport. Je trouve que c'est devenu d'une tristesse infinie. Et la semaine dernière, je fais un lien, mais je coupe tout de suite. La semaine dernière, vous parliez au sujet de la mort de Giscard, que c'était d'une époque où la France était gaie, joyeuse, insouciante. Eh bien, c'est un peu ça qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sous une forme de dictature des mots. Moi, je me sens prisonnier de quelque chose et je n'ose plus m'exprimer. Voilà.
Alors moi, Bernard, j'entends parfaitement votre pensée et j'ai l'avis diamétralement opposés par rapport au vôtre. Je me félicite que le football ait changé, je me félicite que le football, terre d'universalité absolue, soit aujourd'hui le terrain, si je puis dire en employant ce mot, la pelouse sur laquelle on va lutter contre ce fléau raciste. Et j'y vois comme un côté magnifique du football qui devient la terre des héros, ces héros qui sont sortis ensemble pour lutter contre le racisme. Il fallait des symboles, il fallait des héros, les voilà. Et je trouve ce football glorieux parce que c'est par le football où s'exprime trop violemment du racisme, beaucoup, beaucoup, dans beaucoup de pays. C'est par le football que peut-être aujourd'hui, il y a une prise de conscience mondiale qu'il faut lutter tous ensemble contre le racisme. Donc je trouve que ce qui s'est passé, c'est magnifique finalement, parce que c'est le premier acte universel, symbolique. Nous nous sommes levés en criant non au racisme.
Bernard, votre réponse ?
C'est sur le point, ce point-là que je suis d'accord. Hier, c'est un point positif, la réaction des joueurs. C'est indiscutable. Ce que je veux dire, c'est que c'est parmi un tout. D'abord, l'arbitre, je ne peux pas le juger. On ne sait pas si c'est un acte raciste ou pas. Je pense que c'est plutôt, à mon avis, au minimum, une énorme maladresse. Mais à voir après enquête. Mais moi, ce qui me désole, c'est que le foot est encore... Vous voyez, c'est encore un épisode de plus.
Bah merci en tout cas Bernard, mais ce qui est vrai c'est qu'on peut quand même apporter un peu la contradiction, parce que il y a dans les propos de Gilles, parfois je me demande s'il y a une part de second degré également.
Non, pas là, vous le savez bien.
Écoutez, il y a quand même quelques indignations sélectives, parce que les mêmes qui se sont levés hier, ils acceptent l'argent du Qatar, permettez-moi de vous le dire comme ça, et un pays où les droits de l'homme sont parfois bafoués. Où l'homophobie existe. Donc il y a un moment où il faut être cohérent avec soi-même. Et la Coupe du Monde, elle est organisée au Qatar dans un an. Et les mêmes footballeurs qui défendent effectivement à juste titre le racisme iront jouer au Qatar comme un seul homme, si j'ose dire. Convenez que les indignations sélectives existent un peu. Et c'est une manière de mettre en perspective aussi ce monde du football. Et ça ne retire rien à ce qui s'est passé hier. Je trouve ça absolument formidable. L'unité des deux équipes me va très très bien. Que ces deux équipes se mettent d'accord pour dire stop au racisme, oui. Mais convenez que ce que je vous dis s'entend.
J'ignorais que vous partiez en croisade contre le Qatar et contre la manière dont le Qatar peut-être pourfend les droits humains, et à juste titre, Pascal. Mais alors à ce moment-là, si on doit maintenant vivre à l'aune, alors d'accord, vivons à l'aune de la manière dont les droits de l'homme sont respectés dans le monde, de la manière dont les libertés sont garanties dans chaque pays, et sélectionnons nos contacts diplomatiques, économiques, personnels, à l'aune de ça. Mais là, vous retraversez le monde, vous créez une nouvelle carte du monde qui dépasse largement le cadre
vous
du matière soi.
Vous avez bien
mais
compris,
j'entends parfaitement.
Vous
non,
avez bien compris ce que je voulais dire. Alors, ce qui existait d'ailleurs, lorsqu'il y a eu le boycott, par exemple, des Jeux Olympiques, je crois que c'était en 1982 Moscou, ça existait régulièrement.
Vous devenez le leader maximo de la lutte pour les droits de l'homme, et je vous emboîte le pas avec plaisir.
Bon, écoutez, je vous remercie en tout cas, c'était intéressant d'échanger sur ces sujets avec un peu de nuance, avec, je l'espère aussi, pourquoi pas, de la subtilité. Et je remercie Gilles Verdez en tout cas. Est sûre, c'est que nous saluons hier ce qui s'est passé au Parc des Princes et l'unité des footballeurs pour lutter contre le racisme. Flavie Flamand qui prend une photo. Prend une photo de moi, Flavie Flamand, derrière la vitre. C'est très très étrange. Bonjour Flavie, à tout de suite.